20h. Merci de syntoniser le 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Vous écoutez présentement 40 jours et 40 nuits, l'émission qui adresse un doigt d'honneur à la COVID-19. Ce soir, nous utilisons un autre doigt, l'index, pour prendre des photos avec la caméra de Sophie Sans Façon. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Sophie, tu es pharmacienne d'hôpital. Tu es connue de l'auditoire de Radio Victoria. Tu co-animais l'an dernier « Deux accents, cinq océans », une émission sur la plongée sous-marine tous azimuts, toute longitude et toute latitude. C'était vraiment passionnant. Tu as apporté de nombreux témoignages à Esprit d'aventure, cette émission qu'on a faite ensemble à quelques reprises. On a parlé de champignons, on a parlé de plongée, on a abordé toutes sortes de sujets. Et finalement, tu es une habituée de Radio Victoria. Une facette qu'on connaît moins, toutefois, c'est la photographe. Ici, dans l'équipe, on sait que tu fais de la photo, mais c'est un aspect que tu n'as encore jamais abordé en onde. Et on va en parler ce soir. Tu es une passionnée de photographie. Est-ce que ça remonte à très loin, ta rencontre avec la photo?
En fait, je dirais oui et non, dans le sens que pendant longtemps, je me suis pas nécessairement équipée ou en avoir fait régulièrement. Tu sais, je voyais des expositions de photos, je rencontrais des gens qui en faisaient un peu plus souvent. Je voyais ça comme un univers très technique, aussi quelque chose qui coûtait très cher. Mais j'ai appris peu à peu avec différentes personnes, en voyant les résultats, en les voyant procéder. Je dirais que ça a comme l'intérêt moi comme a débuté quand je travaillais comme pharmacienne au nord du Québec à la Baie James.
D'accord. Pourquoi en ce lieu particulier est-ce que tu as eu envie de faire de la photo?
Mais en fait, dans le temps où j'y étais, il y avait peu de distractions extérieures. C'était presque un état de
confinement,
pas un état de COVID-19, mais un état, disons, plus tranquille, parce qu'il y a pas tant, il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas tant de lieux culturels, il n'y avait pas de piscine, le gym était souvent fermé. Fait qu'on passait beaucoup notre temps dehors. Puis aussi, à l'époque, l'Internet n'était pas très bon non plus, donc c'était difficile d'avoir accès là, en tout temps, puis on parle pas, là, on n'avait pas non plus là, de films, etc. C'était des DVD empruntés, des trucs comme ça. Donc, il y avait un peu plus de temps à l'extérieur. Puis aussi, en fait, c'est que c'est pas nécessairement un endroit où ce que bon, il y a les monts, des pentes de ski, des choses comme ça. Ce qui était très beau, c'était les aurores boréales. C'est impossible à faire en faisant à l'époque avec des modes qui étaient automatiques. Donc, il fallait connaître son appareil photo, puis après avoir un peu plus, disons, faire un peu plus de lecture ou avoir un petit peu plus de, disons, de mentorat, là, d'aide de d'autres personnes qui faisaient de la photo.
D'accord. Et est-ce que tu étais conseillée ou tu es allée sur les forums? Comment tu as fait pour trouver l'appareil qui te convenait à ce moment-là?
J'ai commencé très petit parce qu'en fait, moi, il y avait la plongée sous-marine qui m'intéressait, puis il y avait aussi... le fait que quand on commence début un hobby, on ne veut pas nécessairement dépenser des tonnes d'argent. Puis aussi, je voulais avoir un peu un côté de la photographie sous-marine. Puis je voulais aussi faire un peu des trucs là qui étaient là-bas à la Baie James, garder un peu de souvenirs, puis pouvoir faire des trucs comme ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis il y avait un infirmier là-bas, son nom, on va le saluer, Michel Tourné, qui était très, très intéressant en termes de de connaissance des animaux, connaissance de la photo, faire des expériences. Ça avait été quelque chose qui m'avait vraiment marqué là-bas, puis qui m'avait comme aidé à commencer là, dans la photo.
Comme quoi, les pharmaciens d'hôpital peuvent parfois devenir amis avec d'autres professions. Vous n'êtes pas toujours en silo, chacun.
Non, j'avais pas vraiment le choix parce qu'à l'époque, j'étais pas mal toute seule là-bas. Hein. Fait que, comme pharmacienne, donc oui, j'avais beaucoup d'amis qui étaient au niveau là, des soins infirmiers. Quelques médecins, aussi des gens qui travaillaient aussi au niveau de l'administration, ce qu'on appelle les nutritionnistes aussi. Nutrition, pharmacie en général, ça se tient là, vraiment beaucoup bien ensemble. Il y en a beaucoup
d'affinités.
Oui, d'affinités, exactement. De par nos cours d'université, puis de par souvent là, notre approche dans une équipe. Donc, c'est ça.
Et là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2020, est-ce que tu utilises une caméra très, très poussée, très sophistiquée? Avec quoi travailles-tu?
Non, en fait, moi, ce que j'utilise, je suis toujours un petit peu en arrière, dans le sens que moi, ce que je fais, c'est que je dépense pas tant que ça sur la caméra. Ce que j'essaie d'y aller, c'est plus avec les lentilles. C'est ce que je pense qui va faire un peu plus la différence, les objectifs, en fait, je pense que le nom. Hein.
Oui.
Donc, c'est ça. Puis aussi, moi, j'ai toujours le côté que j'aime faire des trucs, sur la terre, mais j'aime aussi faire des trucs en plongée. Donc, la partie, disons, le facteur déterminant, c'est souvent mon caisson pour la plongée. Puis après ça, je vais commencer à ajouter les morceaux là, par-dessus ça. Puis, je suis pas quelqu'un non plus qui achète nécessairement toujours tout neuf. Je dirais que la moitié des trois quarts de mes équipements, je les ai achetés usagés ou de d'autres gens qui vendaient des trucs. Puis, donc, c'est ça. Donc, ce que j'ai qui est présentement, c'est un Canon 5D Mark III. Là, je pense qu'ils sont rendus là vraiment, vraiment plus avancés que ça. Là. C'est déjà une caméra qui a plusieurs années, là, probablement là, 5 ans, 4-5 ans facilement. Mais ça fait quand même là, très, très bien là, pour ce que je veux faire pour l'instant.
Oui, c'est une caméra qui vraiment a su rassembler plusieurs adeptes. Toute la ligne Mark II, Mark III, 5D était très populaire.
Oui, c'est ça. Puis moi aussi, c'est surtout, c'est le fait, c'est ça rentre dans... Parce qu'il faut que c'est vraiment compatible. Les caissons de plongée, souvent, il va seulement avoir un modèle, parfois trois, qui vont pouvoir entrer à l'intérieur de par là, comment c'est fait, c'est fabriqué pour que les boutons, quand on est sous l'eau, s'ajustent bien puis ça ferme vraiment comme il faut. Puis aussi, c'est en fait, moi, ce qui arrive, c'est que je regarde un peu ce que je veux faire, puis j'y vais avec les lentilles. Puis je suis pas très une personne qui est, disons, même si ça a l'air très complexe, j'utilise souvent vraiment des trucs vraiment de base. Donc, j'utilise mes modes manuels. Souvent, même à l'extérieur, j'ai pas de flash. Sous l'eau, j'ai fait parfois des photos qui avaient aucun flash lumière naturelle quand c'est près de la surface. Il y a des gens qui vont dépenser énormément d'argent. Qui vont l'utiliser très peu. Moi, c'est plus comme, disons, dans le milieu. Là, je suis plus du côté, disons, entre guillemets, budget moyen, puis j'essaie de l'utiliser là, régulièrement. Là.
Et tu utilises une panoplie d'objectifs Canon. Est-ce que tu en as plusieurs?
Oui, j'en ai plusieurs. Je dirais que mes préférés, présentement, ce que j'utilise beaucoup, sous l'eau, ça va être soit... une macro 100 mm, donc pour prendre des poissons, souvent c'est des ce qu'on appelle les céphalopodes, là, donc des pieuvres qui vont être très petites. Donc ça va aider là, pour des trucs qui vont être d'une grandeur de, disons quelques centimètres à, mettons, dire jusqu'à 10 cm. Puis je vais utiliser énormément beaucoup ce que j'aime quand la visibilité est bonne en plongée, ça va être la 8-15 mm qui est ce qu'on appelle un fisheye. Je ne sais pas si on doit traduire ça par œil de poisson. Puis ce qui est particulier avec cela de Canon, c'est ça qui m'a fait continuer à rester, disons, un peu avec cette marque-là quand j'ai eu à changer mes trucs de plongée, c'est que ça offre de faire comme une poteau 180 degrés qui est dans un cercle complètement. Donc, on peut avoir énormément, disons, la largeur de l'image qui vont comme être compressées à l'intérieur. Puis ça fait des très beaux effets là, sous l'eau, même avec des animaux, d'autres plongeurs, etc.
J'imagine que sous l'eau, la contrainte du caisson, la contrainte physique du caisson empêche d'employer un téléobjectif qui est beaucoup plus grand.
Exactement. On ne peut pas utiliser là, ce qu'on appelle les téléphotos. Comme par exemple, quand je vais prendre des photos d'oiseaux, c'est du 100-400 mm. Donc, c'est quand même très long. On peut pas faire ça sous l'eau. Puis, en fait, il n'y a pas vraiment de but de faire ça parce que quand on fait de la photographie sous l'eau, il faut être extrêmement près de son sujet parce qu'avec l'eau, la diffraction, on perd énormément de la lumière de nos flashs. Donc, même nos flashs les plus puissants sous l'eau vont seulement donner environ 1,5 m de lumière, peut-être 2 m dans certains cas. Donc, il faut vraiment être très près de nos sujets là, sous l'eau. Donc, c'est beaucoup plus limité. En fait, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça permet de moins dépenser pour ce côté-là.
Tes plus belles prises sous l'eau, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes?
Oui, en fait, j'en ai quelques-unes que j'ai vraiment aimées. récemment. Donc, j'ai eu une très belle... J'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bons settings, les bons ajustements manuels pour une photo avec un requin-baleine à Madagascar. Qui là-bas, ils les nourrissent pas, ils passent en migration. Donc, on peut en avoir aucun. Ils peuvent décider aussi de s'en aller dès que quelqu'un s'approche. Donc, ça, c'était vraiment bien. J'avais vraiment aimé cette photo-là. C'était pas en plongée. Après, j'ai sauté du bateau pour pouvoir aller. C'était plus comme snorkel, là, mais c'était comme un cours constant. T'as à peu près, je dirais, là, 5 clics de chance. Et puis, c'est sans flash et une lumière naturelle encore une fois aussi parce que les flashs font peur aux requins-baleines. Donc, ça, c'en est une que j'ai vraiment beaucoup aimée. Puis, encore un peu à la recherche, c'est en fait une petite crevette bleue qui est bleue, très bleu royal que j'ai prise ici sur l'île de Vancouver. Je ne suis pas certaine si c'est une des rares décolorations ou si c'est une espèce qui était comme ça. Je pense que c'est plus une décoloration là, comme il y avait eu à un moment donné, certaines années, des homards qui étaient soit blancs, soit verts, soit bleus, là, bleu royal en Nouvelle-Écosse. Donc, ça, c'est deux que j'ai, qui me souviennent que j'aime bien là aussi.
Est-ce que au moment de voir ce requin-baleine-là, qu'est-ce qui t'a traversé la tête? Est-ce que tu as su tout de suite que tu voulais sauter ou est-ce que tu as hésité?
Non, j'avais pas le choix. Il faut que tu sautes avant premier. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas on arrive, on a, comment je pourrais dire ça? Ça se fait pas souvent, là, à une fois. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de préparation, même si on a très peu de secondes pour le faire. Donc, moi, par exemple, tout le chemin du retour, j'avais mon masque de plongée, j'avais mon snorkel, puis je respirais avec. Donc, je perdais pas une seconde ou un quart de seconde. J'avais mes pannes. Ma caméra était là. Puis, tout le long du trajet, j'ajustais en fonction d'être de l'autre côté de la lumière ou face au soleil. Fait que je connaissais mes chiffres à l'avance de quand j'allais être dans l'eau, dépendamment de où allait être le requin-baleine, comment j'allais le faire. Donc, je mettais ma caméra un peu dans l'eau, puis je pouvais ajuster en fonction pour avoir l'effet que je voulais avoir. Donc, je réajustais tout le temps en fonction de la direction du bateau. Puis en fonction de la direction où le soleil pourrait être. Donc, j'avais fait ça, je ne sais pas, pendant une demi-heure, 45 minutes. Donc, il n'y avait pas vraiment c'est de la concentration, pas trop de rigolade avec les autres binômes de plongée avec Gigi. Puis, parce que j'en ai manqué quelques-uns où soit le requin-baleine était trop loin, soit mes ajustements n'étaient pas très bons. Donc, je m'étais dit, cette journée-là, il faut... c'est ma dernière chance, c'est notre dernière journée de plongée, pas le choix. C'est une des dernières journées. Donc, je m'étais vraiment comme mis là-dessus, puis j'avais tout fait ça là, comme préparation. Là.
Tu me fais penser à des chasseurs, en fait. C'est vraiment une approche de chasseur. Il y a juste qu'on n'appuie pas sur la gâchette et qu'on n'enlève pas la vie à la proie, mais il y a quand même une idée de proie et de chasseur, non?
Oui, parce que en fait, il faut les trouver, hein, les animaux. Il faut aussi, moi, ce que je dis, c'est bon, tout ce qui est dans un zoo, ça compte pas. Puis on devrait pas encourager ça, même si c'est très facile d'avoir la photo parfaite. Oui, c'est ça. Donc, moi, pendant je sais pas combien de marches que j'ai fait pour essayer de trouver avant le COVID, là, de trouver des hiboux ici. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, j'en vois souvent ou j'en vois à tel endroit. Donc, où je les entends, mais je les vois pas. Donc, c'est souvent ça qui se passait. Donc, ça prend un certain temps. Puis, c'est aussi une question, c'est un peu comme la plongée, hein. C'est une question d'être familier avec ce qu'on recherche. Puis, de répéter, de retrouver, d'écouter les légendes, d'écouter les gens qui disent j'ai entendu quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis, de se dire bon, ben, OK, on se lève, on y va, puis on le fait, puis on voit si de quelqu'un qui a entendu quelqu'un est vrai. Maintenant, regarder un peu sur Internet, quoi, que j'ai rarement eu des très bonnes pistes sur Internet jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça.
Alors, on a parlé des photos sous-marines. Sur Terre, quels sont tes plus beaux trophées de chasse?
Sur Terre, c'est une bonne question. Je te dirais que ces temps-ci, j'ai fait quelques colibris qui étaient bien. Que c'est quelque chose que je pouvais pas vraiment faire avant parce que j'avais pas vraiment de lentilles téléphoto proprement dites. Ce qui est intéressant aussi, que j'aime aussi, c'est parfois les photos de voyage. D'abord, de croquer les gens de la place, puis après ça, de leur demander si c'est correct, puis d'avoir la photo, etc. Quand ils savent pas, à leur insu, un peu, quand ils font leur travail, ils font leur truc, ou les prendre vraiment comme sur le fait. Donc, puis les regarder après, en fait, c'est que je trouve que c'est intéressant parce que ça rappelle des souvenirs, puis aussi ça, comment je pourrais dire ça, ça reconnecte un peu avec l'endroit ou comment on se sentait quand on a pris la photo ou comment la personne le faisait. Comme moi, j'en avais plusieurs avec, souvent c'était des travailleurs ou des gens qui s'occupaient des moutons, des chèvres au Sénégal. J'en ai quelques-unes. Il y en a aussi, c'est seulement des portraits d'amis, des gens que j'ai fait quelques projets. J'ai fait en faire plusieurs sessions un été dans la rivière à Nanaimo. Puis des gens qui disaient, oh, des filles qui me disaient, je suis même pas vraiment en costume de bain, je suis pas sûre. Puis que finalement, ils aiment vraiment le résultat après, puis qu'ils sont vraiment fiers de ce que ça donne. Puis ils ont eu la patience de le faire pendant 2-3 heures. À un moment donné, c'est pas très chaud. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc je dirais que c'est plus comme une variété de situations, puis de trucs comme ça là, à la surface. Puis bon, quelques bons colibris. Pas excellents à mon goût encore, mais disons assez bons pour pouvoir en faire imprimer là, quelques-unes.
Oui, pour les avoir vus, je confirme, très bons. Assez impressionnant, le détail, la vibration des couleurs, tout ça. Quel sacrifice es-tu prête à faire? Justement, tu parlais de partir à la recherche des hiboux. Combien de temps es-tu prêt à attendre? Est-ce que vraiment tu te fixes des limites ou parfois ça va trop loin? Tu réalises que tu as été 8 heures au même endroit? Comment tu gères ça?
Non, j'ai jamais fait 8 heures pour un oiseau à faire du piquet à un endroit. Je serais peut-être prête à le faire si c'était quelque chose d'excessivement rare puis que j'avais le temps devant moi. Souvent, ce qui arrive aussi, c'est que ce qui me limite, ça va être la quantité de lumière à l'extérieur. Ou en Colombie-Britannique, quand il pleut, à un moment donné, s'il pleut à grosses gouttes, on les voit là, dans la photo, donc c'est pas l'idéal. Donc, c'est ça. Mais non, je vais être capable d'aller faire, là, disons, quelques heures de tour. En fait, regarde, Madagascar, c'était quand même un 40 heures d'avion.
Oui.
Mais c'était pas seulement pour ça aussi. Il y a une expérience culturelle, il y a une expérience de découverte. En fait, j'ai jamais vraiment fait de ce qu'ils appellent de safari photo, où est-ce que tu es un groupe de photographes tout le temps ensemble. Je suis plus avec d'autres gens que j'apprécie la compagnie, puis on fait des trucs ensemble, puis on ajuste un peu là, nos horaires en fonction de ceux qui veulent faire un peu plus de photos ou d'activités. Là. Mais non, je dirais que je pourrais en faire quand même beaucoup, mais c'est aussi la question de où on est géographiquement, puis aussi qu'est-ce qu'on retire. Donc, comme moi, ça ne me dérangera pas, mettons, d'aller attendre 1 heure ou 2 ou d'aller faire 1 heure ou 2 de tour sur l'île pour aller faire, par exemple, une photo d'oiseau parce que, par exemple, ils vendent beaucoup trop puis le centre de plongée est fermé ou il y a eu des annulations, là, justement, là, au niveau d'autres activités, d'autres trucs comme ça. Puis, je vois ça comme une marche puis une forme de relaxation là, aussi là, en même temps.
Tu parlais des hiboux. Est-ce que tu as finalement pu en croquer un, en capturer un avec ton objectif?
Oui, j'ai pu. En fait, je l'avais trouvé. Puis, parce que je les avais entendus, qui s'appelaient, il y en avait 2 dans des arbres. Donc, c'est de choisir lequel que je vais essayer de regarder. Il y en avait un, disons, qui était un peu plus accessible. L'autre, j'aurais dû traverser par probablement là, deux rues de maison. Puis, il y avait d'autres personnes qui prenaient des photos aussi, qui sont arrêtées, qui voulaient toutes regarder le même. Donc, moi, je suis attendue, j'ai pas bougé. En fait, carré, je pense que les oiseaux, ils voient plus le mouvement que les couleurs. Donc, si on bouge pas trop ou qu'on bouge très lentement, petit peu à petit peu, souvent, ça leur fera pas peur. Donc, les 2 autres bougeaient énormément. Puis, c'était pas des gens avec qui je connaissais. Donc, eux sont partis au bout de, je sais pas, moi, je dirais 30 minutes, 40 minutes. Donc, je suis restée, j'ai entendu. J'ai pu en avoir un. Mais c'est pas quelque chose de très rare, là. C'est seulement ce qu'on appelle un Baird Owl, là. C'est un hibou qui est quand même très commun ici, qui est blanc avec des taches grises. J'en avais vu à Nanaimo là, auparavant. C'est juste que je ne savais pas exactement où il était là, à Victoria.
Fascinant, Sophie. Fascinant cette démarche, cette recherche, cette poursuite, cette quête. On va s'arrêter quelques instants pour aller en musique. Pour rappel, à ceux qui viennent d'atterrir sur les ondes du 107.9 FM, nous sommes dans l'émission 40 jours, 40 nuits, l'émission qui vous offre un petit répit de COVID avec des discussions, des rencontres, du dialogue. C'est tous les soirs à 20h, je suis en compagnie de Sophie Sansfaçon et on se retrouve de l'autre côté de la pause. Bonjour et 40 nuits à l'antenne du 107.9 FM, Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Je suis en compagnie de Sophie Sansfaçon, que vous connaissez, chers auditeurs. Elle était co-animatrice de l'émission Deux accents, cinq océans. Rebonjour, Sophie.
Rebonjour.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sophie?
On vient d'entendre The City Sleep, qui est une pièce électronique de Zephyr Nova, qui est en fait un DJ, un musicien multidisciplinaire qui habite la région de Victoria.
Ah oui, comment le connais-tu? Est-ce que tu l'as déjà vu en prestation?
Je l'ai pas vu en prestation en tant que DJ. Par contre, je l'ai vu en tant que prestation dans un autre groupe qui s'appelait The Sky Lit Up. Je l'avais vu à Vinyl Envy cet hiver. C'était excellent, en fait.
Tu sais que je rêve toujours de cette émission intitulée Cascadia, que tu avais le projet de réaliser sur la scène locale.
Cascadio, oui.
Cascadio, jeu de mots formidable sur Cascadia, cette république utopique qui n'existe pas encore, mais qui réunirait le nord de la Californie, l'Oregon, l'État de Washington et la Colombie-Britannique. Alors, une espèce d'État... Pour le moment, au stade de rêve futuriste, un petit peu. Sophie, on parlait de...
Un état bio-géographique là, qui était
ouais.
Un rêve des années 70.
Oui, oui, oui.
Encore.
J'aime beaucoup leur drapeau. Et y a beaucoup de merch aussi autour du thème Cascadia. Le drapeau est fort joli. Je crois que c'est un grand sapin de Douglas, si ma mémoire est bonne, à moins que ce soit un autre de ces...
Exactement.
Oui. Alors, on parlait de photos. Sophie, si je te demandais ta caméra de rêve, si tu disposais d'un budget illimité?
En fait, ce que je ferais, c'est que j'irais avec les lentilles de rêve.
Ouais.
Probablement que je changerais quelque chose d'un petit peu plus récent. J'irais probablement avec le Canon 5DSR, juste parce que ça c'est un des modèles qui peut entrer. C'est le plus récent et haute technologie qui peut entrer dans mon caisson sous-marin. Puis après ça, j'irai probablement avec quelque chose. J'ai regardé hier juste par curiosité. Là. Maintenant, il y a des lentilles jusqu'à 98 000 $ américains qui se vendent. en termes de téléphoto. J'irais probablement avec quelque chose comme que j'ai déjà vu. Si tu me dis que j'ai pas de limite de budget, là, une 800 mm de Canon. Je l'avais vu, je pense, aux Jeux olympiques de 2010. J'avais vu des photographes prendre des photos de personnages de vitesse. Puis, comme c'était pas un événement, c'était le personnage de vitesse de relais, comme s'il n'y avait pas énormément beaucoup de foule, j'avais pu m'approcher puis pouvoir voir là, dans la capture là, d'écran là, à côté du photographe qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Donc, c'était vraiment bien. Mais pour de vrai, sérieusement, si j'avais, mettons, disons, 10 000 $15 000 comme ça pour dépenser, je prendrais probablement pas seulement un morceau d'équipement, je prendrais plutôt plusieurs petites choses pour avoir un plan B, comme quand on voyage, où est-ce que des fois, il y a une chose qui se fait endommager, il y a une chose qui brise, ou avoir des trucs un peu plus là, diversifiés là, pour faire plus de trucs là, créatifs, là, comme par exemple des lentilles, une meilleure lentille portrait, des choses comme ça. Là.
Tu parlais des hiboux tout à l'heure. Est-ce que tu te sens à l'aise en basse lumière? Est-ce que tu aimes croquer des sujets de nuit ou à la nuit tombante, à l'aube?
Je dirais, en fait, c'est parce que les animaux sont là, hein, donc c'est plus facile de les voir, puis sont souvent plus actifs. Donc, l'aube, puis le coucher de soleil, c'est surtout, disons, pour faire du repérage. Puis après ça, t'es retourné à différents temps, puis bon, comme ils vont faire moins de bruit, ils retournent, puis essayer de les voir s'ils sont un peu plus exposés, etc. Je trouve ça quand même assez difficile, puis je suis pas de l'école où même si les nouvelles caméras sont beaucoup plus performantes au niveau de basse lumière, j'aime pas comme pousser cette valeur-là. Je trouve que c'est, entre guillemets, un peu triché. Puis souvent, ce qu'on obtient, c'est qu'il y a beaucoup de grains dessus.
De bruit, ouais.
Donc, ça fait pas une image qui est très, très claire, là. Donc, si je peux l'éviter, je l'évite. Parfois, on n'a pas vraiment le choix. Mais c'est ça, c'est plus pour le repérage, là, je dirais que ça aide un peu plus à ce temps-là. Puis aussi, il y a moins de gens aussi. Certains endroits, il y a beaucoup de chiens, ça dérange les oiseaux. Il y a plus de bruit, plus de mouvement. Donc, ils vont être moins là, disons, dans où je les vois moins. Ils se cachent un peu mieux dans le milieu là, de la journée. Là.
Entre la photographie sous-marine et la photographie sur Terre, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'il y a une pratique que tu préfères entre les deux?
J'aime les deux. C'est très, très, très différent hein, parce que la photographie sous-marine, là, c'est une heure, puis quand de préparation, de chargeur, des fois même 3 heures quand ça va pas très bien. Puis plus la caméra est vieille ou plus le caisson est vieux, plus qu'il y a du comment dire, bon québécois, du gossage, là, pour que tout fonctionne bien. Puis il y a toujours un risque en plongée sous-marine que si c'est pas bien fermé, l'eau peut rentrer, donc on perd tout. Ça m'est arrivé 2 fois à date, mais pas avec le modèle que j'ai présentement. Donc, il y a un risque là-dessus. La photo sur Terre, c'est plus difficile pour moi parce que je connais un peu moins les habitudes puis les endroits. Puis là, ben on est limité dans nos déplacements. On est limité aussi aux endroits où on peut aller pour bonnes raisons. Donc, c'est très différent, là, je dirais, là, comme approche. Là. J'aime les deux, mais à différentes occasions, là, pour différentes raisons.
Est-ce qu'il y a des photographes que tu admires beaucoup?
Oui, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a quelques-uns que j'aime bien de Montréal. Il y a un qui est émergent, qui s'appelle Benoît Payet, qui fait des magnifiques photos. Je dirais plus des symboles, des paysages, avec ce qu'on appelle là, des gels, des éclairages. Il fait toutes sortes de sujets. C'est jamais des trucs où c'est des super modèles. C'est jamais des trucs non plus où c'est extrêmement beau, extrêmement retouché à l'Instagram. Il est très, très indie. Il s'est même fait refuser l'entrée ou s'est fait repousser l'entrée d'une de ses propres expositions à Montréal. Donc, un personnage très spécial que j'admire beaucoup de par sa technique, puis aussi juste de la qualité, puis le fait que je pense que c'est quelqu'un qui se tient loin des médias sociaux, donc qui se fait moins influencer. Puis il n'y a pas non plus, je pense, un parcours où il a fait, disons, là, un bac en or, etc. C'est un scientifique de base. Donc ça, lui, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Il y en a quelques-unes comme ça aussi que c'est énormément surprenant ce qui peut se faire. Il y avait une autre artiste qui s'appelait Janie Gifford, Julien Fort. Elle avait fait, je pense, c'était autour des années 2010-2009. Ça s'appelle les vieux du stade. Elle avait pas de caméra, en fait. C'était une boîte en carton avec un trou, puis une vieille pellicule.
Wow.
puis elle faisait l'exposition. Tout était manuel. C'était vraiment comme... C'est de la photo, mais de la photo comme il y a...
150 ans.
150 ans, c'est ça, exactement, ouais. 150 ans. Puis, c'est quand même bien parce qu'en fait, tu sais, les brûlures dans ces photos, les paysages, tout rajoute un effet. C'est vraiment... C'est de la photo, mais c'est en même temps un peu comme, je dirais, de la sculpture à la fois. Puis, elle avait pris des animaux. Elle avait emprunté des animaux empaillés du biodôme, puis elle les avait promenés à Montréal. Puis elle les avait mis dans ses photos. Donc, c'est vraiment plus une approche artistique. Mais je trouvais que c'était vraiment très bien. Puis c'est quelque chose qui a le budget. C'est beaucoup, c'est l'investissement de temps, l'investissement de créativité, mais très peu au niveau là, de la technique. Donc, j'aime ces gens-là qui vont faire des choses différentes comme ça.
Alors, Benoît Payet et Janie Giffard.
Julien Fort, exactement. Je l'écris parfois là, sur son site, c'est Janie J. Fort, mais c'est Julien Fort, sur mon famille.
Et on peut les retrouver sur le web?
On peut facilement, très facilement. Puis c'est des gens qui publient, là, qui ont leurs expositions passées, on peut aller les visiter, ce qui est vraiment intéressant, dans des sites de portfolio là, artistique.
Si tu pouvais passer une heure avec eux, tu leur demanderais quoi?
En fait, j'aimerais ça voir un peu leur kit, de voir un peu comme qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur Tupperware. Puis les deux, je pense que c'est très simple. Puis j'aimerais ça aussi voir un peu le côté B, les photos qui ont moins bien fonctionné autour de ce qui a vraiment bien été. Parfois, c'est intéressant parce que même pour moi-même, souvent, il y a des photos que j'aime pas du tout. Puis je les garde un peu, puis deux mois, trois mois, deux ans après, je les regarde, puis je trouve que c'est bien. Donc j'aimerais ça voir un peu ce côté-là B. Puis c'est sûr que j'aimerais bien les voir travailler, mais des fois, c'est un peu indépendamment de leur démarche. Je sais que ça peut être long, puis c'est long d'avoir quelqu'un à côté, donc ça peut être plus difficile. Puis j'aimerais ça plus voir un peu comment ils décident leurs idées d'avoir un projet, puis de l'exécuter. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est l'emplacement? Des genres de trucs comme ça. Là.
Ça doit t'inspirer de voir qu'un scientifique comme Benoît Payet, sans formation préalable en art, ait pu aller aussi loin en photo. Toi, est-ce que tu exclus la possibilité de recevoir une formation plus tard, un jour, où tu te dis « je suis une autodidacte et je suis DIY, j'apprends en faisant des photos »
Oui, c'est toujours une grosse question, hein, parce que il y a tellement d'informations maintenant sur Internet, c'est tellement partout, mais à la fois, c'est pas toujours bon, pas toujours organisé. Des fois, c'est inspirant de voir ce que les gens font, mais d'un autre côté, ça met un standard, ça met un niveau, puis ça met ce qu'on appelle les algorithmes à côté, donc on répète un peu. Donc, ça s'enlève un peu, disons, de l'exploration, de la créativité, etc. De l'autre côté, bon, si je veux prendre des photos de trucs d'oiseaux ici, des choses comme ça, il n'y a pas nécessairement... Il y a quand même la place à de la créativité, mais je ne suis même pas encore tout à fait là au niveau où j'aimerais être, au niveau technique encore. Je ne sais pas, je ne suis pas une personne qui est très technicienne, qui est très... je vais aller lire mon manuel de A à Z, puis trouver. Je suis plus comme par problème, j'essaie de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, comment je peux le résoudre. Donc c'est ça. Donc, j'aime bien regarder plus que ce qui se fait là, au niveau artistique là, que nécessairement... là. Je regarde aussi les photos de faune et de flore, ces choses-là, mais j'aime regarder un peu les deux. Là.
Sophie, on va s'arrêter en musique quelques instants, encore une fois. Qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci?
Je vous propose, attendez un petit peu, oui, en fait, on va rester dans le Victoria.
Merveilleux.
Une chanson qui s'appelle « Fallen Stars » d'un groupe indie rock pop qui s'appelle Hush Hush Noise et qui est de Victoria.
Brightest star in the sky.
La formation Hush Hush Noise sur les ondes du 107.9 FM, une pièce intitulée Fallen Stars. Et je retrouve mon invitée Sophie Sansfaçon, une autre formation de Victoria, Sophie.
Exactement, oui.
C'est super, tu as quand même une bonne connaissance de la scène locale.
On essaie d'explorer comment on peut sur le web ces temps-ci, là, parce qu'il n'y a plus vraiment de spectacle live, comme on dit.
Oui, le confinement nous affecte vraiment. On s'en rend compte au bout de quelques jours. Comment adaptes-tu ta pratique photographique en ces semaines de confinement forcées?
J'ai commencé à regarder un peu plus du côté des photos inspirantes. Regarder aussi un peu mes photos du passé. Des trucs que je suis pas nécessairement allée en détail, les publier, les ajuster, des choses comme ça. Il y en a des gens qui, je regarde un peu aussi là, ce qui s'est fait comme exposition que j'ai peut-être manqué à Montréal ou ailleurs, et prendre un peu le pouls là, de ce qui s'est fait dernièrement, que j'étais peut-être un peu trop occupée d'aller regarder. J'ai regardé aussi un peu là, certains sites de plongeurs, voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres pays, est-ce que les gens plongeaient, des trucs comme ça. Puis souvent, là, les recommandations, c'est que souvent les centres de plongée vont fermer aussi parce qu'il n'y a pas trop de règlements clairs sur au niveau de la sécurisation des centres de plongée, ces choses-là, etc. Souvent aussi, les gens ne peuvent pas être malades là, dans les commerces, des choses comme ça. Où c'est pas des services essentiels, donc ils vont être fermés. Donc, il y a plusieurs de gens, de plongeurs, que je vais regarder un peu ce qu'ils font, puis qui s'adaptent. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont faire des photos d'insectes, soit dans leur cour arrière ou dans leur salle de bain, des trucs comme ça, là. Donc, non, je dirais que c'est plus de la lecture, plus l'exploration de ce qui s'est fait là, récemment ou dans le passé. Là.
Et avec qui partages-tu tes photos? Où peut-on voir tes photos?
J'en mets pas nécessairement toutes parce qu'il y en aurait énormément. J'en mets certains de certains thèmes je dirais plutôt ces temps-ci sur Instagram, sur mon compte, qui est Sophie, S-O-P-H-I-E, avec le tiré en bas, là, le underscore, San, S-A-N, et un autre là, tiré en bas, QC. Donc, on peut en voir là-bas. Un peu là, varié là, de la photo sous-marine, puis de la photo aussi là, que j'appelle la photo de surface. C'est le nom qu'on va dire que les plongeurs vont utiliser pour ce qui n'est pas sous-marin.
Est-ce que tu recueilles de bons commentaires? Est-ce que tu as des échanges intéressants? Est-ce que ça te permet d'échanger sur la technique ou sur les spots, sur les différentes pratiques et approches en photo?
En fait, j'ai connu des gens un peu comme ça là, sur Instagram, je dirais. Comme par exemple, j'ai connu des plongeurs de Seattle que j'ai vus finalement dans la vraie dans la vraie vie, là, que je suis allée à même plonger avec eux, qui était vraiment très bien. Puis on a pu partager un peu ce qu'on faisait, les endroits, les sites de plongée, ces choses-là. Alors, je les salue, Eric et Jessica de Seattle. Aussi, c'est juste le fun de voir des encouragements, voir ce que les autres personnes ont fait. Je le vois plus comme une forme de relaxation que de compétition, là, en fait. Mm-hmm. C'est sûr que c'est toujours là, à mettre là, comme une balance entre les deux, là, entre ah oui, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça faire la même chose. Là, je vois juste que c'est comme une expérience différente là, pour chaque personne, chaque plongée ou chaque voyage là, qu'on peut faire. Là.
Avec le confinement, tu fais quand même quelques sorties ici et là. Ça t'empêche pas de travailler en solo?
J'en fais un peu, mais j'en fais beaucoup moins. Je pense toujours là, au risque là, que chaque sortie, c'est quelque chose. Si les gens sont curieux, ils s'approchent vraiment beaucoup. Donc, d'où l'idée d'y aller, là, pas nécessairement à midi le dimanche, mais d'y aller plutôt très tôt ou un peu plus tard, dans l'après-midi, quand le soleil se couche, ou d'y aller juste quand la pluie vient de s'arrêter ou même quand il pleut. Puis souvent, quand j'arrive à mon endroit, ben, il pleut un peu moins, donc on peut quand même faire quelques trucs. Donc, on fait ça. Mais je dirais que aussi, je fais beaucoup, là, comme je dirais, là, regarder en ligne, puis regarder ce que j'ai fait là avant, des choses comme ça, ou juste faire de la lecture, là, faire d'autres choses.
Oui, c'est une bonne période pour faire un peu de ménage dans ses archives.
Exactement.
Pour faire de la lecture théorique un peu en photo.
Aussi. Formidable. Et en santé. Profession oblige.
Sophie, un grand merci pour cette visite à l'intérieur de ton monde photographique, de ta pratique de la photo, et qui continue.
C'est un plaisir.
J'espère qu'on se retrouvera sur les ondes du 107.9 FM prochainement. Si ce n'est dans Cascadio, dans d'autres contenus ponctuels qu'on fera ensemble. Et je te souhaite de bien te porter au cours des prochaines semaines. On se retrouve plus tard à Radio Victoria.
Merci.
Et chers auditeurs, profitez aussi de ces conseils. Soyez prudents. Tenez bon en cette période de confinement. On va se retrouver demain soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de 40 jours et 40 nuits. À très bientôt.